Rémi Lefebvre, bonjour, merci de répondre à l'invitation de PFM pour cet entretien téléphonique. Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, grand spécialiste de la gauche française et du Parti socialiste, universitaire engagé aussi, et puis il faut le dire, ancien de Radio PFM il y a quelques années, mais toujours animateur sur une radio associative lilloise, RCV, ce qui m'amène, Rémi, à te tutoyer. Bonjour Rémi.
Bonjour.
L'idée est bien sûr d'évoquer cet entre-deux tours des élections législatives 2024 et notamment la question du front républicain contre un RN aux portes du pouvoir. Nous reviendrons aussi sur ton analyse de la stratégie du nouveau front populaire. Mais avant, Rémi, comment as-tu reçu l'annonce au soir des élections européennes du 9 juin dernier, l'annonce par le président Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation, un peu dans la précipitation, d'élections législatives ?
Comme beaucoup de Français et de commentateurs, j'étais sidéré, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai compris très très vite, au ton employé par le président de la République, que quelque chose de grave se préparait et il n'y avait pas 36 options. Donc dès lors qu'il prenait la parole, j'ai compris que c'était une dissolution qui allait être déclenchée. J'ai à la fois compris la décision du président de la République parce que c'était légitime de redonner la parole au peuple, et que la situation politique institutionnelle était bloquée depuis très longtemps et qu'elle ne pouvait pas durer encore jusqu'au bout du mandat, mais assez scandalisé par le caractère très opportuniste du déclenchement tactique de cette dissolution juste avant l'été, juste après une victoire éclatante du Rassemblement national donc aux élections européennes. Et donc, voilà, aussi très très choqué par cette forme de cynisme qui a amené le président de la République à dissoudre dans ces conditions.
On va pas revenir sur le premier tour, hein, tout le monde le sait. Confirmation pour le Rassemblement national, effectivement, de très bons résultats qu'il avait enregistrés aux européennes, et en particulier dans notre région et au niveau des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Donc depuis ce dimanche 30 juin et ces résultats qui mettent en avant le Rassemblement national, on voit s'organiser un front républicain contre l'extrême droite. Alors, est-ce que ce front républicain n'est pas quelque part un risque de renforcer la stratégie du Rassemblement national, une stratégie du seul contre tous et surtout tous les mêmes en dehors de nous?
Évidemment, c'est le front républicain, c'est à la fois, on voit mal comment de toute façon on pourrait adopter une autre stratégie pour faire barrage à l'extrême droite, hein. Il n'y en a pas 36. Il faut donc des désistements, il y en a eu beaucoup, par dizaines, qui se sont produits ces derniers jours, et un appel au vote républicain, c'est-à-dire voter au deuxième tour pour la force politique qu'on a souvent appris à détester dans les mois qui précédaient. Là encore, Emmanuel Macron a une grande responsabilité parce que en diabolisant le nouveau front populaire, il a rendu de fait assez complexe le front républicain, hein. Elle expliquait maintenant à des électeurs macronistes qu'il faut voter pour faire barrage à l'extrême droite pour un camp qualifié d'antisémite. C'est un peu compliqué. Donc le Front républicain pose toute une série de problèmes, d'abord d'efficacité. Et comme tu l'as justement dit, effectivement, le problème et le piège du Front républicain, c'est qu'il accrédite l'idée que toutes les forces politiques sont d'accord pour faire barrage au Rassemblement national et donc nourrit en fait l'idée qui fait prospérer elle-même l'extrême droite, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une collusion entre les élites, qu'il y a des partis du système. Pendant longtemps, le Front national parlait de l'UMPS pour qualifier en fait cette espèce de cartel électoral contre l'extrême droite. Donc effectivement, c'est un immense problème. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ce problème, il va rejaillir. Il y a une idée de gouvernement d'union nationale qui se développe après dimanche. Donc concrètement, ce front républicain, effectivement, il pose toute une série de problèmes. Mais pour finir, on voit absolument pas d'autres options. Hein. Et là, on voit toutes les contradictions de notre système politique et institutionnel. C'est que pour faire barrage à l'extrême droite, il n'y a pas d'autre option que le front républicain. Mais il faut ensuite passer à des analyses et des solutions qui conduisent à éviter de l'utiliser la prochaine fois. On peut toujours l'espérer.
C'est ça, il faut faire barrage au RN, mais ensuite, comment faire pour regagner une partie de l'électorat du RN, et notamment dans notre région, un électorat des classes populaires?
Ça fait maintenant 40 ans que le Front National est installé dans la vie politique. À chaque élection, c'est toujours les mêmes constats. C'est toujours. Aujourd'hui, on a énormément d'analyses en sciences politiques, en sciences sociales, pour comprendre le vote au Rassemblement National. Donc l'analyse, elle est faite. Le Rassemblement National, c'est un vote qui exprime beaucoup des malaises qui caractérisent la société française, une société de plus en plus fragmentée, inégalitaire, notamment sur le plan territorial. C'est très très flagrant de voir que la fracture géographique est de plus en plus béante. Elle est béante, la fracture géographique. Bientôt, il n'y aura plus que les grandes villes qui vont voter à gauche. En dehors des grandes villes, l'hégémonie de l'extrême droite est de plus en plus forte. Donc voilà, le vote RN, il exprime le malaise, il exprime aussi la radicalisation aujourd'hui d'une partie de la société qui n'a pas forcément beaucoup de problèmes sociaux. Des électeurs de droite qui sont chauffés à blanc par les réseaux sociaux, par CNews et par une propagande aujourd'hui xénophobe qui est de plus en plus décomplexée. Donc voilà un peu pour l'analyse. Après, concrètement, évidemment, les solutions, à mon sens, c'est traiter toute une série de questions qui sont abandonnées depuis longtemps, le développement des services publics, la lutte contre les déserts médicaux, plus d'éducation aussi, parce que la caractéristique quand même du vote pour le Rassemblement National, c'est que c'est un vote peu diplômé, et c'est un vote aussi qui traduit une forme de perte de repères politiques. Donc ça peut se traiter aussi concrètement. Mais c'est un immense défi, et évidemment, il faut le relever, mais on est au pied du mur, là, concrètement. Si l'extrême droite passe pas dimanche, elle n'a pas la majorité absolue. C'est une question qui va se poser évidemment de manière avec acuité dans 2 ans avec l'élection présidentielle et dans toutes les élections futures.
Justement, Rémi, est-ce que tu penses que les électeurs du Nouveau Front Populaire et des candidats qui se sont retirés des triangulaires vont suivre les consignes de vote dimanche qui ont été données par ces partis ?
Je pense que la question se pose plus pour les électeurs macronistes qui sont plus sujets à ne pas suivre les consignes ou à ne pas voter contre l'extrême droite. Les électeurs de gauche sont plus habitués en fait à pincer leur nez et à voter pour des candidats qui ne sont pas les leurs. Depuis malheureusement 2002 et le 20 avril de sinistre mémoire. Et puis 2017 et 2022, beaucoup d'électeurs de gauche ont voté Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc à gauche, même si ce réflexe commence à s'épuiser un peu et que beaucoup d'électeurs ne veulent plus jouer le jeu du Front Républicain, je pense pas que c'est à gauche que ça posera le plus de problèmes. Le problème vient des électeurs macronistes, et c'est d'autant plus embêtant que c'est eux qui ont la clé du scrutin de dimanche. C'est la plupart des... J'ai plus les chiffres en tête, mais la plupart des configurations électorales, dimanche, ça sera des duels entre le RN et le Nouveau Front Populaire. Donc ça veut dire que les électeurs macronistes du premier tour seront les arbitres de ces duels. Or, en 2022, dans les duels donc entre la NUPES de l'époque et le Rassemblement National, 70% des électeurs macronistes du premier tour ne sont pas allés voter. Concrètement, si jamais il y a ce chiffre, le Rassemblement National aura sans doute une majorité absolue à l'Assemblée. Donc concrètement, la clé, c'est est-ce que les électeurs macronistes vont se rendre aux urnes et vont voter pour un électeur, enfin pour des candidats que leur camp a diabolisé pendant toute la campagne. Voilà, c'est un peu le dilemme cornélien de cette campagne.
On se demande aussi pourquoi le Nouveau Front Populaire ne séduit pas davantage. Il y a quand même des électeurs potentiels pour le Nouveau Front Populaire qui votent RN à la place. Est-ce que tu penses que c'est dû justement à cet épuisement, à une volonté de changement ? On entend beaucoup qu'on n'a pas encore essayé ce parti-là.
La gauche, faut être clair, la gauche fait pas du tout un bon score. Faire 28% dans un contexte de montée d'extrême droite, 28%, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. La gauche à 28%, alors qu'elle est unie, alors qu'il y a des candidats uniques au premier tour, c'est pas bon. Et la gauche est voilà, mais ça on le sait. La gauche elle est battue idéologiquement depuis des années. Elle a perdu la bataille culturelle. Elle n'est pas implantée. Elle n'est pas crédible. Elle est encore abîmée par la mémoire du quinquennat de François Hollande qui a été catastrophique. Et puis, effectivement, elle ne les situe pas. Elle est jugée bien pensante, idéaliste, trop favorable aux bobos des villes. Voilà. Et donc, du coup, alors même que, effectivement, les Français placent le pouvoir d'achat en première préoccupation quotidienne. Donc, il y a un espace politique et il y a un potentiel pour la gauche. Voilà. Elle est aussi fragmentée et on a bien vu quand même que l'alliance électorale du Nouveau Front Populaire, elle n'a pas réduit les divergences qui sont très très fortes, plus sur la forme d'ailleurs que sur le fond, entre Jean-Luc Mélenchon et des composantes plus modérées. Voilà, donc la gauche, évidemment, la victoire du RN, pas la victoire, la poussée phénoménale du RN, c'est l'envers des faiblesses de la gauche. Et effectivement, dans la région, dans les départements Nord et Pas-de-Calais, où 12 députés RN ont été élus dès le premier tour, il y a plein d'endroits où c'est la gauche qui devrait gagner. Donc voilà, c'est terrible pour la gauche parce que effectivement, la poussée de l'extrême droite, c'est une autre défaite pour elle.
Pour toi qui as un regard sur l'histoire, est-ce que c'est vraiment pour ces élections-là que ça se joue pour l'avenir? Est-ce que c'est pas plutôt au moment de l'élection présidentielle où on pourrait avoir et une majorité absolue RN et potentiellement un candidat RN qui passerait aussi à l'élection présidentielle?
Non, parce que c'est, peut-être que c'est plus important encore la présidentielle. Mais là, il faut quand même rappeler aux auditeurs que pendant une cohabitation, c'est pas le président de la République qui gouverne, pas du tout, c'est le Premier ministre. On est dans un régime semi-présidentiel, assez ambigu. On a l'impression que le président de la République a tous les pouvoirs, mais il a tous les pouvoirs quand son camp est au pouvoir. À partir du moment où il y a un Premier ministre d'une étiquette politique et qui dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est lui qui dirige. Donc du coup, le pouvoir là, le pouvoir de l'extrême droite potentielle, c'est pas à la présidentielle dans 2 ans, c'est peut-être lundi. Et donc voilà, c'est évidemment une date absolument. On vit des moments absolument historiques, c'est évident. Parce qu'en plus, quoi qu'il arrive, il va se passer à partir de lundi, ça va être un bordel sans nom, quoi qu'il arrive. Ou bien, mais je ne crois pas, le Rassemblement National va obtenir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale, ou bien on va entrer dans une période politique extrêmement compliquée, puisqu'il n'y aura aucune force politique qui disposera d'une majorité absolue, et qu'en plus on est dans un contexte très très forte polarisation qui rend très compliqué la construction de compromis. Et donc là, on est dans un état limite de la Ve République, qu'on a jamais connu. J'en discutais avec des collègues historiens qui, voilà, c'est objectif. Là, on vit un moment terrible, très incertain et très périlleux.
Tu parlais des médias tout à l'heure. Aujourd'hui, on constate que la presse, d'une certaine manière, influence l'opinion. Est-ce que c'est le fruit du rachat par de grandes fortunes de certains médias qui modèlent un petit peu le contenu de ces médias? Est-ce que c'est nous, en tant que journalistes, qui nous sommes trompés, qui ne savons pas bien analyser la situation? Et ce, malgré un contrôle de l'ARCOM qui peut potentiellement aujourd'hui se faire a posteriori aussi. On l'a vu avec la nouvelle émission de Cyril Hanouna, On marche sur la tête sur Europe 1.
Bah, c'est tout ça un peu réuni. Alors, il ne faut pas être dans la théorie du complot. Il n'y a pas un complot des médias par rapport au système politique et aux citoyens. Il y a tout un ensemble de logiques. Alors, il y a effectivement le poids de certains groupes médiatiques, et notamment le groupe Bolloré, qui évidemment joue un rôle essentiel. Le Monde a révélé 2 jours après la dissolution que l'alliance entre Ciotti et le Rassemblement National avait été téléguidée par Vincent Bolloré, qui a reçu Ciotti le lundi suivant la dissolution. Donc c'est pas du tout un mythe de considérer que Bolloré tire beaucoup de ficelles de la vie politique. Après, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, bon, effectivement, il y a aussi un appauvrissement du débat public, du débat médiatique. Ça c'est vrai. Et des émissions comme Hanouna qui cartonne auprès des Français participe de cet abêtissement, de ce confusionnisme où en fait on ne donne plus forcément les clés aux citoyens. Il y a aussi beaucoup de journalistes qui font très bien leur travail. Moi, ce que je voudrais pointer, c'est aussi le fait que les médias s'intéressent à des questions parfois secondaires ou cherchent l'hyperdramatisation. Quand par exemple, et je pense que c'est pas de parti pris de dire ça, quand par exemple les médias diffusent, ils confirment l'idée que la gauche est antisémite ou même qu'LFI est antisémite, ça me paraît tout à fait problématique. Concrètement, LFI, alors moi je suis très critique sur LFI, et je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu des paroles tout à fait déplacées, et parfois borderline, notamment sur l'antisémitisme résiduel, mais on confond antisionisme et antisémitisme, et les médias reproduisent un petit peu des simplifications outrancières qui n'élèvent pas le débat.
Une dernière question, Rémi. Il y a beaucoup d'intellectuels, d'universitaires, notamment d'historiens. Il y a un appel d'un millier d'historiens qui demandent à faire barrage au Rassemblement National. Qu'est-ce que tu penses de ce positionnement là, des intellectuels, des universitaires? Et toi-même, est-ce que tu t'es positionné?
Bah ouais, je me suis positionné, mais ça sert à rien en fait. Je vais être assez... ça sert à rien. Bon, il faut le faire. Je peux le faire, mais je pense que ça touche pas du tout les électeurs du Rassemblement National, et malheureusement ça donne aussi l'impression d'une espèce de consensus des élites intellectuelles et politiques contre le Rassemblement National. Voilà, je dis pas qu'il faut pas le faire, je l'ai fait, j'ai signé plusieurs textes, mais en fait ça interroge sur les modes d'action. En fait, il faut renouveler les modes d'action contre le Rassemblement National. La moralisation, la diabolisation ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça ne suffit pas. Il faut trouver d'autres modalités d'action, il faut toucher les jeunes, sans doute aussi par les réseaux sociaux, mais autrement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une réflexion à mener sur renouveler un petit peu les répertoires d'action contre l'extrême droite et faire preuve d'imagination.
Voilà, merci Rémi. Bon courage à toi parce que je sais que tu es très sollicité en cette période électorale et un moment, comme tu l'as dit, historique. Peut-être la semaine prochaine, hein, on pourra refaire un petit point après le deuxième tour.
Pas de problème.
Bon, bah, super. Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
Ouais, au revoir. Bon courage. Au revoir.